Et c'était de match d'anthologie pour ceux qui étaient avec nous en live match. L'égalisation à la dernière minute de Kylian Mbappé qui sauve le Paris Saint-Germain de l'Europa League. On est le PSG, on ne va pas en Europa League, en tout cas pas ce soir, peut-être après, mais pas ce soir en tout cas. La Dream Team est au complet, on est tous avec vous pour débrief ce match. Je sais que vous êtes frustrés par ce qui s'est passé, on a eu plein d'occasions. Ce match est censé finir en victoire, pourtant on fait un match nul et du coup tout va se jouer à Dortmund le 13 décembre. Tonton, c'est quoi ton impression globale sur le match ?
Un PSG qui est rentré déjà pied au plancher à l'image du match contre l'AC Milan précédemment. Les 15 premières minutes, tu vois un PSG qui est ultra dominateur, qui cherche à ouvrir le score et malheureusement qui n'y arrive pas. Et suite à ça, j'ai eu l'impression que le PSG a eu un peu peur. C'est vachement relâché. Et on a vu Newcastle qui s'est mis à exister à partir de la 15e minute jusqu'à facile à la 32e. Et à partir de là, durant ce temps fort de Newcastle, il y a eu leur but. Et le PSG a eu énormément de mal en fait, à convertir son très très grand nombre d'occasions. Je ne cache pas que j'ai eu de très très nombreuses frayeurs pendant ce match. Et je t'avoue que finalement, le résultat final, je le prends un peu comme un soulagement.
Soura, toi, t'es quoi? T'es soulagé? Comment t'as vécu ce match?
En vrai, un peu de soulagement, puisque le Paris Saint-Germain a tenté énormément des occasions. Ça rentrait pas, notamment Bradley Barcola. Donc, on reste quand même soulagé, parce qu'on évite quand même la catastrophe, et notamment de regarder le PSG sur W9, mais sinon, ça va.
Kevzor.
Ouais, soulagé. Je crois que mes voisins, ils sont tapés sur mon mur après l'égalisation. Je pense que je les ai réveillés, mais globalement, en fait, malheureusement, dans un match de haut niveau, ce qui est important, c'est l'efficacité dans les deux surfaces. Aujourd'hui, on l'a pas été ni dans l'une ni dans l'autre. Donc voilà, ça marche aujourd'hui. On va dire qu'on est encore en vie, mais dans d'autres rendez-vous, ça fonctionnera pas.
Oui, effectivement, on a une équipe qui est assez limitée pour le très très haut niveau. Face à une plus grosse équipe, ça aurait pas pardonné. Lolo et Gato qui étaient avec moi pendant le live match, bon, on va pas vous poser les mêmes questions puisque on a fait le live ensemble. Du coup, on est face à une grosse inefficacité de nos attaquants. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu ce soir au niveau des attaquants? Parce qu'il y a quand même Kolo Muani qui a été un peu inexistant. On a Dembélé qui a raté des grosses, grosses occasions. On a Barcola aussi qui en a raté des grosses. Ça a l'air d'être un problème un peu généralisé dans toute l'équipe. Limite, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Donc, L'Oréal, t'en penses quoi de tout ça?
En fait, à l'image de si vous avez un peu entendu ce que Mbappé a dit à la fin du match, il dit très clairement en fait que c'est pas une question de système, une question d'organisation, c'est une question de joueur. Que là, ça s'est vraiment joué sur l'efficacité et sur le comportement des joueurs face au but. Pour moi, tu as les occasions. On a plus de, je le disais dans le live, mais on a plus de 50 ballons touchés dans la surface adverse, ce qui est énorme. On a plus d'une 20, 25 tirs, je crois, et sur les 25 tirs, tu n'en as même pas 10 qui sont cadrés. Donc, il y a un gros, gros problème où il faut que les gars se remettent très clairement dedans. Après, voilà, est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de l'arbitrage qui a été assez compliqué? Monsieur Marcignac, depuis la Coupe du Monde, on dirait qu'il n'aime pas trop la France ou il n'aime pas trop les équipes françaises. Donc bon, on va dire que c'est pas cher payé, on s'en tire bien et très très bien et heureusement parce que sinon, je pense que les peut-être les jeudis soirs, voire peut-être aucun match européen dans la semaine aurait été très très long quand même.
Gâteau frisé, ok. On va passer.
Non, non, oui, pardon, je suis là, pardon.
Vas-y.
Écoutez, on l'a vécu en live, de toute façon, donc les gens ont vu, on était dans les états seconds, on commence à raconter n'importe quoi, on était plus lucide. Les gars, après, c'est-à-dire que les matchs où on vendange comme ça, on s'est dit on pouvait jouer 2 heures, 2 heures et demie, 14 mi-temps, on aurait raté, et on aurait perdu, on a su pas le perdre. C'est un truc qu'on a ultra dominé. On aurait dû gagner parce qu'on a mis on avait des occasions de ouf au début et à tous les moments du match, limite, et surtout à la fin. Moi, j'ai cru même au hold-up avec Barcola à la fin des fins des 8 minutes du temps additionnel. Mais on a su ne pas le perdre et franchement, ça nous laisse en course pour la suite. Et l'Europa League, c'est pas envisageable aujourd'hui. Donc non, faut qu'on continue. On a une finale. On a une finale. Et comme Milan aussi a un truc en soi, Milan a un truc à jouer comme la qualification en Europa League. Et même si tu fais des calculs un peu bizarres, Milan pourrait potentiellement, s'il met X buts, se qualifier, je ne pense pas. Donc c'est pas comme si les équipes vont lâcher du lest. Là, franchement, très heureux d'avoir pris ce point. J'ai eu tellement peur. Hop, 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 hop.
Kevzor, on a 31 tirs à 5 sur ce match. Est-ce que tu as quelque chose à reprocher à Luis Enrique sur le match qu'on a vu ou est-ce que c'est pas de sa faute, il a fait ce qu'il avait à faire et que ça a pas suivi derrière?
Absolument pas, parce que moi je trouve que ce qu'on produisait était cohérent. Et comme je l'ai dit, en fait, à partir du moment où c'est que tes attaquants jouent en Timberland, mon frérot, c'est pas possible. Parce que Mbappé, il la joue trop facile sur certaines situations. La première, là, l'occasion où il tente une talonnade. Et je veux bien à un moment donné, mais quand tu es un joueur de la classe de Mbappé, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas normal. Et on se doit de finir plus d'occasions. Tu vois, Dembélé, c'est pas possible. On lui a changé ses crampons avant le match, on lui a mis des chaussures de sécurité. Barcola, c'est pareil. Mbappé, finalement, il marque le penalty. Mais concrètement, il fait un très mauvais match, il rate des occasions. On rate trop d'occasions, on rate trop d'occasions. Et aujourd'hui, encore une fois, même si le plus dur dans le football, c'est de marquer des buts, on se doit d'être beaucoup plus efficace parce que 31 tirs, il faut noter le nombre de tirs cadrés. Je n'ai pas la stat exacte, mais je ne suis pas convaincu qu'on en ait 7. Je crois que c'est ça, 7 tirs cadrés.
J'ai pas la stat, mais
Ouais, t'en as
ça
moins de
doit être à peu
10.
près ça.
T'en as moins de 10,
On
c'est
est, on
sûr.
était, on était, je crois qu'on est à 29-5, donc Barcola, donc ça doit être 6. Je crois que c'est 31 tirs, 6 cadrés. À un moment donné, je veux bien, tu vois, que Nick Pope fasse des parades, etc., etc. Mais et putain, c'est pas Nick Pope qui fait qu'on tire à côté quand il n'y a plus de gardien. C'est ça, 7 tirs cadrés. Non, mais
7 tirs cadrés, ouais.
31 tirs, 7 cadrés. À un moment donné, je veux bien, mais...
Salut Thomas parle foot, bienvenue dans Paris Central. Ça fait un moment qu'on t'avait invité. Content que tu sois venu avec nous ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé de Luis Enrique? Est-ce que tu as quelque chose à lui reprocher sur ce match ou est-ce que c'est les joueurs?
Déjà, merci de l'invitation et je viens. Heureusement qu'il y a ce pénalty. Hein. Je serais venu avec une défaite. Waouh! Chaud. Non, mais ouais, Luis Enrique, on peut peut-être poser la question. Je sais pas si vous avez dit, j'ai pas suivi le début, sur pourquoi Danilo et pourquoi pas Mukiele à gauche et Lucas Hernandez dans l'axe. C'est tout ce que j'ai reproché à Mukiele. Et puis peut-être sortir plus tôt Colomoni et mettre Gonzalo Ramos ou Asensio. Mais bah, c'est juste le côté de Danilo. Encore une fois, qui est un très très bon soldat, mais Mukiele a été plutôt performant contre Monaco et Lucas Hernandez est un dev de formation. Donc, mais sinon, bon, je ne sais pas ce que vous avez dit dès le début, excusez-moi. Ça se trouve, vous avez peut-être défoncé
Non, non,
Enrique.
non, ça c'est arrivé sur ce sujet-là. On n'a pas défoncé
Ok.
Enrique. De
On n'a pas
toute
dit grand-chose
façon,
de toute manière.
on est en train justement de poser la question. Tu étais deuxième intervenant dessus. Soura, toi, tu as quelque chose à reprocher à Luis Enrique?
Ouais, peut-être par rapport au choix, notamment en Likanguin, on a vu qu'il n'était pas à son aise aujourd'hui, et notamment sur le côté gauche. Je pense qu'il est vraiment pas fait pour être à ce positionnement-là. Il est mieux sur son couloir droit où il a beaucoup plus d'automatisme. Et après, pas forcément lui reprocher beaucoup de choses. Peut-être oui, le choix de Danilo, c'est sûr que tu peux avoir quelques doutes par rapport à la titularisation du Portugais, mais sinon. Après, dans l'ensemble, tu as quand même vu que le Paris Saint-Germain s'est créé beaucoup d'occasions. Il y avait pas mal d'espace qui était créé, notamment avec toujours cette combinaison entre Hakimi et Ousmane Dembélé. Donc, on peut lui reprocher des choses ce soir, mais tout n'est pas à mettre au crédit de Luis Enrique, parce qu'il y a quand même pas mal de défauts qui ont été vus de la part des joueurs.
Ok. Bon, pour plus de fluidité, vu qu'on est pas mal, tonton, je te rends l'émission. Je te mets des commentaires de côté si tu as des pannes de sujet, mais je te laisse gérer. Vas-y, prends la suite.
Okay. Bon, du coup, justement, on avait un peu abordé les sujets du chat et j'ai, comme disait Nix, être à l'image de la soirée, on va plutôt se laisser guider parce que vous en avez pensé. Alors, oui, bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tacler Donnarumma. J'aimerais bien qu'il y ait un peu de variété, si possible, parce que bon, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais on va pas épiloguer pendant 5 minutes dessus. Alors, ah tiens, bah, ça répond un peu à ce que disait Kevzor. Et là, du coup, bah, j'ai interrogé Soura pour répondre à cette question. Kylian qui dit au micro de RMC, on a trop d'actions, on ne les met pas, c'est le système. C'est pas le système, c'est les joueurs. Tu perçois ça un peu comme un tacle ou un peu comme un constat plutôt?
Un peu des deux. En deuxième mi-temps, c'est pas possible de se créer autant d'occasions et ne pas savoir mettre un but. Bradley Barcola, je veux bien que ça soit un jeune joueur, je veux bien qu'il ait encore des progrès à faire, qu'il ait une marge de progression. Mais t'as trois actions, notamment une où t'es en face du but et t'arrives à l'envoyer au premier speaker qui est tout en haut, qui est en train de filmer avec son Nokia 3310. Au bout d'un moment, faut faire un peu d'effort et savoir la mettre au fond des filets. Et Kylian Mbappé qui fait cette déclaration, j'espère qu'il est très fort en autocritique, hein, parce que le match des Métiers qui nous a pondu ce soir, c'est digne des plus grandes disaster class de Kylian Mbappé Lotin sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est un manque de respect son match aujourd'hui. T'as déjà la magère, la retournette acrobatique, la petite talonnade à la 89e minute de jeu. Faut pas se foutre de la gueule du monde. T'affrontes Newcastle, t'affrontes pas Carquefou en 10e tour de Coupe de France. Donc je pense que Luis Enrique, et avec lui, il va peut-être y avoir du changement sur comment se comporter avec Kylian Mbappé, parce qu'il y a quand même eu certains traits du visage qui l'ont énervé, mais il faut faire vraiment, faut qu'il fasse attention à pas réitérer ce genre de performance.
Alors je vais faire tourner cette fois, j'ai demandé du coup à Gâteau, qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment, de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu penses pour toi suite à cette performance? Est-ce que ça remet en question le statut de Randall titulaire? Est-ce que pour toi tu dois mettre Ramos, Asensio ou une autre option peut-être?
Est-ce que ça remet le statut de Randall titulaire? Non, parce que Randall n'est pas un titulaire fixe. Comme si aujourd'hui, on partait sur Randall Kolo Muani à chaque fois et que l'option numéro 2 était définie, parce que l'option numéro 1 n'est pas définie. Et c'est vrai que Asensio pourrait rendre des services. Et ça dépend de la configuration du match. Par contre, un petit point, si tu veux jouer avec un 9 vraiment de surface, tu vas mettre Ramos. Si tu veux bien jouer avec un 9 qui est décroche, tu vas pouvoir mettre Asensio, et Randall Kolo Muani, malheureusement, plus le temps arrive, et on se dit, mais on va l'utiliser comment? Et ça, c'est dur pour lui.
Justement, ben là, je vais aller sur L'Oriel, j'essaie de re-suivre le tour, comme ça, chacun a un peu son tour de parole. Je vous trouve dur avec Donnarumma sur l'action, il y a 7 défenseurs qui ne bougent absolument pas sur l'action, je pense que Mayuko parle du mouvement de Livramento, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de soi, justement, de cette action, L'Oriel?
Bah, le truc, c'est que, comme je disais en live, hein, avant même d'arriver à fustiger tonton Donnarumma, il faut regarder l'action. J'ai regardé là devant moi. Il y a Livramento, il fait un slalom, il passe entre 7 joueurs, comme l'a dit dans le commentaire. Il n'y a personne qui l'attaque, il n'y a pas une faute, il y a pas de. Le mec, il a le temps de faire donc, du latéral gauche en passant par notre défense centrale pour passer sur notre latéral droit. Le latéral droit, il a le temps de frapper pour qu'après, il puisse être contré. Enfin. Avant même de l'attaquer, il y a bien deux choses qui sont importantes. Et après, c'était juste pour revenir par rapport à la réaction de Kylian au micro d'RMC. Je l'aime beaucoup, mais franchement, qui s'applique vraiment sur son match, parce que le penalty le sauve énormément. Et je pense que s'il n'avait pas mis son penalty, je pense que la France entière, RMC, tout le monde aurait tapé sur lui avec le gros boulard, le truc, etc. Et ce serait mérité, parce que ce qu'il nous a fait comme match, je suis désolé, mais moi la magère dans les 10 premières minutes, alors que tu peux les mettre sous terre et enchaîner derrière, je suis désolé, mais t'as pas le droit de faire ça, franchement t'as pas le droit de faire ça. Donc qu'il s'occupe d'abord à revenir un peu à son meilleur niveau, et après on verra pour le reste, quoi.
Justement, j'allais demander à Thomas son avis. Pour toi, le 4-2-4, qu'est-ce que, bon, je ne te demande pas forcément de répéter ses propos, mais qu'est-ce que tu penses de ce système? Est-ce que pour toi il est viable? Est-ce qu'on doit procéder autrement pour le dernier match de Ligue des Champions? Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Le 4-2-4, de toute façon, il fonctionne pas. On l'a vu, ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi il le met. Après, Enrique, on sait qu'il aime bien insister sur ses principes. Ça, c'est clair. C'est bête à dire, mais dans ce milieu de terrain, Zaïre Emery manque énormément, quoi. C'est fou que les Parisiens, maintenant, soient... un manque, t'as un gamin de 17 ans qui n'était pas non plus prévu pour être à ce niveau-là. Bah après, il est monstrueux, hein, il est déjà en équipe de France et tout. Mais je pense que Paris, son problème, c'est contre les équipes qui jouent bloc bas. Hein. Nice, bloc bas, défaite. Lorient, bloc bas, match nul. Clairement, match nul, bloc bas. Enfin, on en passe évidemment, mais Monaco, c'est une équipe qui joue au jeu, donc ça, c'est parfait pour Paris dans le jeu de transition. Et puis là, vous avez vu quand même... Combien de tirs Newcastle? 5 ou 6?
5 tirs de cadré. 5 tirs de cadré, et du coup, les deux tirs cadrés, c'est l'arrêt de Donnarumma et le but.
5 tirs de cadré, enfin, à la fin, c'était autobus, double autobus. C'est compliqué pour n'importe quelle équipe. Donc, quand tu as comment dire, il n'y a pas de... Enfin, entre Colomoni et Ramos, en tout cas, quand tu as un numéro 9 dans n'importe où en Europe, à Londres, tu sais, c'est numéro 9, Harry Kane, c'est numéro 9, enfin, tu vois, bon, au Real, c'est un peu différent parce que bon, il y a Bellingham qui surclasse, mais là, on ne sait pas, Ramos, Colomoni, donc Asensio, maintenant, va se mettre dans la boucle. Donc, il n'y a pas... Il n'y a aucun qui fait peur aux défenseurs. Donc, ils disent, bon, bah, Colomoni, voilà, Ramos... Donc ils font pas peur, il y a quand même Mbappé, et Mbappé, il y a trois joueurs sur lui directement, et comme vous disiez, il a fait des talonnades. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire, des fois.
Je sais pas si c'est qu'on n'ait pas de neuf qui font peur, ou en fait on prend pas le temps de les installer aussi. Parce que en fait, avec Enrique qui essaye de faire un espèce de turnover toutes les 5 secondes, quand il y en a un qui prend de la confiance, il le fait sortir, etc. Et tout. Moi je m'attendais à ce que Ramos puisse commencer le match, puisqu'il a fait un bon match contre Monaco, et ça avait l'air intéressant. Et là, le fait qu'il rechange encore son truc, bah, en fait, ça nous met dans le... Enfin, ça te met dans une position où tu ne sais pas comment tu dois jouer, tu ne sais pas avec qui, les automatismes qui doivent se créer, bah, tu n'en as pas tant que ça. Il faut que je... enfin, on le rappelle, mais nos deux attaquants de pointe aujourd'hui, nos deux numéros 9, n'ont pas fait la préparation avec l'équipe. Donc, du coup, en termes d'automatisme, tu n'as rien, rien qui est créé. Donc voilà, c'est... Enfin, bref, c'est assez compliqué. Franchement, c'est compliqué.
Moi, je pense... Le numéro 9, enfin le joueur qui manque à Paris, c'est Harry Kane, quoi. Je comprends pas pourquoi. Non, vraiment. Hein. Pourquoi ? Ah, peut-être qu'il est vieux, trop vieux pour certains, mais vous avez vu la saison qu'il fait, quoi. C'est meilleur buteur d'Europe.
Surtout qu'il a pas voulu venir.
Ouais, c'est ça. C'est un Anglais, faut pas oublier. Hein. Ils considèrent très mal la Ligue 1.
Donc même, tu as de sources sûres, honnêtement, Harry Kane ne voulait absolument pas venir au PSG.
Absolument pas, ok.
Absolument pas venir au PSG. C'était vraiment... Il était même prêt à rester une saison. Il était vraiment prêt à rester une saison de plus à Tottenham et aller au bout de son contrat plutôt que de venir à Paris, alors que Luis Enrique et le PSG a vraiment fait un forcing très, 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 très fort en lui proposant vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça aussi que Ramos et Colomoigny ont été recrutés très tardivement dans ce mercato. Parce que jusqu'à la signature tardive de Harry Kane, même si c'est une petite parenthèse, vous m'excusez.
C'est intéressant.
Voilà, mais malheureusement, Harry Kane, il n'a jamais dit vraiment non. Mais en fait, c'était vraiment l'option poubelle pour lui de venir au PSG, entre guillemets.
Waouh.
Sur les traits, mais...
J'allais te poser la prochaine question, justement, Kevzor, ça tombe bien. Parce qu'en plus, elle est parfaitement taillée pour toi. Avec la suspension de Dembélé pour le prochain match de Ligue des Champions, tu mets Colomoigny ou Barcola à droite, toi ?
Je mets Colomoigny.
Toi, tu préfères mettre Colomoigny
et je mets Ramos en pointe parce qu'à un moment donné, moi, je pense que Colomoigny et Ramos peuvent jouer ensemble. Je pense que Barcola, pour le moment, si on parle de contenu, tu vois, je trouve qu'il ne fait pas une rentrée inintéressante. Mais malheureusement, dans ce genre de match, il y a des situations, il y a des moments clés qui font que tu dois être performant à certains endroits, dans certaines zones, et que tu dois être décisif. Aujourd'hui, malheureusement, Barcola, je pense que ça va beaucoup lui trotter dans la tête, le fait qu'il n'ait pas marqué encore depuis le début de la saison avec le PSG. Randal Ramos, sont en capacité de jouer ensemble. Et voilà, je pense que, tu vois, je trouve ça dommage. Encore une fois, aujourd'hui, on est peut-être dans un match, dans une situation où on a le plus centré depuis le début de la saison. Et c'est aujourd'hui où tu n'as pas Ramos sur le terrain. En sachant qu'il y a des choses que je ne comprends pas. De toute façon, il est dans sa continuité, Luis Enrique. Mais ça n'empêche que pour moi, ce n'est pas sa faute si on en a un partout. Mais je pense que je mettrai Randal à droite et Ramos en pointe. Ça permettrait aussi de... Parce que Dembélé, on ne va pas se mentir, fait un match catastrophique aujourd'hui. Hein. Il fait partie, même s'il a fait des diffs, il a fait quelques trucs, etc. Il a fait du Dembélé. Mais aujourd'hui, Dembélé doit finir au minimum avec 2 buts. Au minimum. Tu vois, je veux bien que ce ne soit pas sa capacité, sa qualité. Moi, ça me saoule, tu vois. Ça me saoule parce que là, tu te mets en difficulté jusqu'à la 96e minute de jeu. On ne va pas se mentir, on est quasi éliminé de la Ligue des Champions. C'est-à-dire... On était depuis 2004-2005, on n'avait pas fait 3 défaites en phase de poule. Le constat, il était quand même aggravant. Depuis le rachat de QSI, tu n'avais perdu qu'un seul match à domicile. En phase de poule, bien sûr, c'était le match qui n'avait plus rien, qui ne servait plus à rien contre Manchester United. Donc, tu vois.
C'était la première journée, Kevzor. Il ne servait pas à rien, le match.
Il ne servait pas à rien, frère.
Pardon.
Tu t'es trompé de match.
Je me suis confondu. Mais dans tous les cas.
Sorti de Thomas Tuchel, machin, tu sais.
Oui, c'est
un peu galère avec la politique là-bas.
Pour moi. Mais bon.
Galère en plus cette année-là aussi. Hein. Ça ressemble à cette année d'ailleurs.
Pour moi, messieurs, dames. M'attrapez pas par le col. Mais concrètement, tu vois, c'est une chose qui est concrète. À domicile, normalement, on fait peur. Et là, tu as Newcastle qui a fait zéro changement. C'est-à-dire que si tu
Ouais,
marquais 15
ça qui est
minutes,
fou, hein. Zéro
si
changement.
tu marquais même 10 minutes plus tôt, tu gagnais le match. Les
Mais
mecs
tu as vu le
n'arrivaient
banc en
même
même
plus à
temps?
courir.
Ouais, c'est vrai. C'est pas faux, t'as
Mais
raison.
même quand tu vois le banc de Newcastle, ils ont fait venir deux gardiens, cinq joueurs de champ, et parmi les cinq, je crois qu'ils disaient un truc du genre, il y en a trois qui ont moins de
C'est
20
des
ans, c'est ça?
gamins, ouais, c'est des gamins
C'est
pour la
ça, genre là
UEFA,
pour le
ouais.
coup.
Mais oui.
Là pour le coup, autant la vanne de Manchester United, ils avaient envoyé l'équipe de jeunes, ça marchait pas. Là autant ça marchait vraiment. Mais du coup, j'allais poser la prochaine question justement à Asura. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas
Après,
entendu.
je vais vous laisser les gars, si ça vous dérange pas.
Ah, pas de
Enfin,
problème. Bah,
après
bah,
le
c'est quoi,
tour,
je te
quoi.
pose. C'est quoi, ouais voilà.
Adam.
J'allais dire, je fais Asura et après j'allais te faire toi comme ça, je te libère rapidement.
T'inquiète, t'inquiète.
Mais justement, Asura, j'allais te demander. Asensio est revenu. Tu le vois dans quelle utilisation toi prochainement, Marco Asensio?
Bah, moi, je pense que c'était l'option numéro une pour Luis Enrique en tant que faux numéro 9, parce que c'est ce qu'il avait l'habitude de faire quand il était le sélectionneur de l'Espagne. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on voit que, certes, on a recruté deux numéros 9 qui ont des qualités intrinsèques qui peuvent vraiment nous servir au Paris Saint-Germain cette saison. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment la tactique prônée par Luis Enrique d'avoir un numéro 9. Est-ce qu'il a vraiment voulu avoir Gonçalo Ramos et Grandal Kolo Muani? Moi, je pense que sa priorité pour le moment, c'est de faire jouer Marco Asensio. Ça a bien marché au début. Maintenant, il s'est blessé pour un certain temps, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il était à l'infirmerie. On va voir maintenant comment il va revenir, parce que ça va prendre du temps. Il faut y aller à tatillon. Et surtout, essayer de voir à peu près comment tu vas réussir à vraiment avoir les bons ingrédients. Encore une fois, là, je me répète un peu, mais pour Marco Asensio, je pense qu'il a vraiment une grande carte à jouer. Et de façon, à l'approche, quand il avait signé, personne n'aurait cru que Marco Asensio serait aussi important pour l'attaque du Paris Saint-Germain. Et maintenant, bon, bah, on prie pour qu'il revienne assez vite. Et je pense que oui, Luis Enrique a vraiment envie de voir ce que peut donner une attaque Mbappé, Asensio et Dembélé sur la durée.
Alors, je vais poser justement la prochaine question à Thomas. Bon, elle était un peu plus destinée à l'équipe de Paris Central, mais bon, Jean-Christophe, si tu suis régulièrement nos débriefs, tu as un peu notre avis, donc je vais plus transférer la question à Thomas. C'est quoi ton avis sur le niveau du club 6 mois après l'arrivée de Luis Enrique? Il n'y a pas vraiment de 11 types, pas de formation claire, perf à l'extérieur en Ligue des Champions assez laborieuse. Je te laisse commencer et je pense que c'est une question que j'ai laissé tout le monde répondre après.
Bah, Enric, enfin après, quand un coach arrive, c'est compliqué quand même de voir une patte directement. Sauf qu'on la voit quand même, Enrique. Le fait qu'il veut installer un petit peu, alterner entre jeu de possession et jeu de transition rapide avec des ailiers, tu vois. Et sur Asensio, c'est un Espagnol, hein, il a entraîné la Roja et Enrique. Il l'a fait jouer en faux neuf, si je ne me trompe pas, quand Morata
Oui,
n'était pas
oui.
là. Du coup, je pense qu'Asensio, à mon avis, il va passer devant Colomoni et Ramos. À mon avis, ça va être comme ça. Hein, je pense. Il a quand même fait une début de saison. Enfin, même si c'était que deux buts, une passe D, mais c'est comme un jeu. Asensio, avant qu'il se blesse, au Real, considéré comme un crack. Hein.
C'était
Donc,
censé devenir un joueur générationnel en Espagne, en
ouais,
effet.
carrément. Donc, je
Au
pense que ça peut le
rendez-vous dans
faire.
2 ans.
Ouais, mais on verra, on verra.
Oui, bien sûr.
Mais pour l'équipe à l'extérieur. Non, c'était quoi la question déjà? Les vite.
Excuse-moi,
Dis-moi,
non. Je t'avais
Après,
justement
après,
la
après
question.
quasi 6 mois de compétition, qu'est-ce que tu penses un petit peu de Luis Enrique, vu qu'on n'a pas fait de perf à
Ah oui.
l'extérieur?
Je te remets le commentaire à l'écran, comme ça,
Ok.
t'as la question.
Pas non si, bah, je pense qu'il se cherche encore, notamment le numéro 9. Sinon, milieu de terrain, ça reste quand même cohérent. Et puis, le Zaïre-Emery a bien bousculé les choses. Il y a quand même pas mal de certitudes. Je pense qu'il faut peut-être penser à peut-être prendre un défenseur central au mercato. Le pas de 11 type, je pense qu'il se cherche, donc faut être patient. Que 6 mois tirer des enseignements, on ne sait pas. Et perf à l'extérieur, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que les équipes de Ligue 1 dites plus faibles, ben, ils vont bétonner derrière, quoi. Donc, c'est tant qu'il n'y a pas des. En fait, ce qui manque à Paris, c'est un numéro 10. Un numéro 10. Un
Un
joueur
meneur
qui
de
va
jeu, tu veux dire?
De créer le jeu un petit peu, quoi, tu vois. Moi, je suis assez fan des Bruno Fernandes et João Félix, je suis un peu fan comme ça, donc je pense pas que
Ne
ce
me
soit
lance pas sur
le.
le sujet.
Ah, pardon. Non, mais il manque quelqu'un, donc là, il n'y a que des box-to-box ou des mecs qui vont vers l'avant, qui gardent le ballon, des doubles pivots, il y en a partout. Verratti faisait un petit peu ce système-là, je trouve. On va pas en parler de Verratti, mais faisait le transition milieu-attaque. Mais il manque un profil, quoi, parce que Mbappé. Tu donnes à Mbappé, et puis Mbappé, il y a 3 joueurs sur lui, c'est compliqué. Donc, faut être patient. Paris est leader de Ligue 1. Paris va être qualifié, je pense, Attends, c'est quoi les calculs du coup? Paris peut plus être dernier là, de la poule, ça?
C'est ça, c'est ça. Paris a actuellement 7 points. Newcastle 5, a actuellement 5, et 5, 5 points, ouais. Comme Milan. Et Dortmund a 10 points. Ouais. Donc en gros, si Paris gagne, t'es sûr d'être deuxième.
Non, voire, Paris gagne, premier obligatoirement.
Voilà, bah, la différence de but, tu sais, particulière sur la confrontation entre les deux équipes. Et après, justement, bah, si tu fais match nul, t'es un peu dépendant du Newcastle-Milan, en fait. Et comme Newcastle a la différence de but favorable exceptionnelle contre le Paris Saint-Germain, si on fait nul et que Newcastle gagne, c'est nous qui l'avons dans l'os. Donc, il y a tout un schmilblick à calculer.
Si je peux me permettre, Tonton, ça va nous permettre aussi, pour une fois à l'extérieur, de ne pas calculer. Tu vas devoir aller à Dortmund pour avoir, en fait, un minimum de cohérence. Tu vas devoir aller à Dortmund et gagner. Tu vois, parce qu'à chaque fois, on est dans le calcul, on est en train de se dire « essayez ça là ». Tu vas à Dortmund, tu dois gagner. Et tu veux finir premier de la poule parce que derrière, tu auras ton match retour à domicile. Tu pourras prendre pas forcément favori de Ligue des Champions. Tu dois y aller, tu dois gagner. Point. Et dans tous les cas, derrière, tu n'as plus rien à te reprocher.
Alors, c'est Newcastle, dit quelque chose. Vas-y, Thomas, excuse-moi.
C'est Newcastle Milan, ça. Hein.
Exactement.
C'est ça. Et oui, on va jouer ce dernier match à l'extérieur. Je te rejoins, c'est assez inquiétant, Kevin. Ouais. Mais non, en soi, justement, au niveau du calcul des points, oui, c'est ça. C'est si tu gagnes à Dortmund, à la différence de but particulière, t'es première. Et surtout, là, il faut le dire, hein, genre, si tu t'amuses à regarder les autres poules cette année, c'est pas l'année où il faut terminer deuxième. Dans les autres poules, le Barça est premier, Manchester City est premier, le Real Madrid est premier, le Bayern est premier, Arsenal est premier. Et nous, on est français, on va en éviter aucun. Nous, on peut tous les tirer. Donc, ça revient déjà du fait que bah, on est un club de Ligue 1. On l'a bien vu au tirage des poules tous ensemble, pour ceux qui avaient suivi le live, ce que ça donne. Hein. On n'est pas du genre à pouvoir être chanceux au tirage. Si on peut être chanceux au tirage, bah, c'est en étant premier. Il ne faut vraiment pas se donner le luxe de terminer deuxième, parce que là, à ce moment-là...
Je suis même pas sûr avec notre chatte monstrueuse. Je suis même pas sûr qu'on soit forcément bien loti, même en étant deuxième ou premier. Tu n'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise avec une équipe
qui peut terminer. Ouais, en vrai, le pire, c'est l'Inter Milan. Je t'invite à regarder le classement actuel, là où l'Inter, il en est tout de suite. Si tu es premier, le pire à tirer, c'est l'Inter Milan. Et je ne te dis pas c'est un cadeau pour autant. Mais c'est si tu compares à l'autre partie du tableau,
et franchement, t'es plutôt bien si tu finis premier.
Non, mais le problème, c'est pas ça, les gars. C'est de faire le match retour à l'extérieur. Le PSG match retour à l'extérieur, c'est un début mars. On est à la maison. Ceux qui ont des copines, la semaine, ils sont tranquilles. Voilà.
C'est ça. Il n'était pas à l'abri de la mauvaise surprise. Donc, moi, personnellement, les trucs de tirage, etc., on est Paris Saint-Germain, même avec des tirages qui ont été plus accessibles que d'autres dans des formes où l'équipe adverse était plus faible, potentielle, on a réussi à être sorti. Donc, au final, ça ne sert à rien.
Match retour à domicile, mis à part Manchester United, en général, on est quand même plutôt en ballottage favorable.
Après, j'allais juste lancer... Oui et non. J'allais dire, je vais lancer un autre sujet et je vais donner la parole à Gâteau parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas eu. Donc sur ce, bonne soirée à toi Thomas. Merci d'être passé.
Salut. J'ai compté le match, je suis un peu cuit j'avoue.
Je te comprends.
Je vais aller manger tranquille et puis en tout cas bravo pour votre taf et puis au
merci
plaisir
à toi d'être
carrément.
Merci beaucoup.
Non, c'est normal.
Et continuez comme ça, le suivre sur sa chaîne, c'est très simple à suivre.
Ciao les gars. Ciao.
Salut.
Bonne soirée. Ben justement Gâteau, j'allais poser la prochaine question, comme ça fait un petit moment que tu n'as pas parlé, il ne faudrait pas qu'on t'oublie non plus dans le chat, déjà qu'on ne voit plus ta caméra, il ne faudrait pas qu'on te mette de côté. Qu'est-ce que tu penses justement de la comparaison Ruiz Ugarte sur les derniers matchs?
Sur les derniers matchs, franchement, Fabien Ruiz, il est bon. Aujourd'hui, il a été bon par Simoni, il a été un peu ballotté, il était redescendu en centrale au moment quand Danilo est sorti, mais ses prises de balles, elles n'étaient pas inquiétante parce que, mine de rien, il a quand même essayé d'aller de l'avant. Ça nous a permis quand même de trouver des situations. Maintenant, il était bon, Fabien Ruiz, mais autour de lui, c'était complexe. Contre Monaco, il était bon, et autour de lui, c'était bon aussi. Donc, ça a permis d'aller chercher des buts ou d'avoir de belles actions. Ugarte, aujourd'hui, son utilisation était un peu caduque parce que Newcastle était le plus souvent acculé vers son but, et sa qualité première, c'est d'aller récupérer des ballons. Pas besoin d'aller récupérer des ballons quand tu tiens le ballon. Donc c'était surtout dans les circuits de passe où on joue en balle à un moment où on n'a pas trop vu, et il s'est pris un carton jaune bête, je trouve aussi. Donc comme c'est pas les mêmes joueurs, évidemment on les compare. Mais qu'est-ce que la question, il voulait dire quoi par là, le frérot? C'est si on devait faire Ugarte d'un remplaçant et Fabien Ruiz d'un titulaire, on choisit qui? Si ouais. C'est ça la question,
Ouais, on va l'attendre
si,
un peu.
Si on se base sur les deux derniers matchs, bah, si c'est que les deux derniers matchs, je mets Fabian Ruiz, mais sinon, l'utilisation, c'est pas les mêmes. Donc, la complémentarité, elle est intéressante. En plus, ça apporte de la taille au milieu de terrain, Fabian Ruiz.
Non, mais t'as raison, la complémentarité entre les deux est plutôt intéressante. Je vais invoquer le démon Nyx. Je vois qu'on est 460 en live et je vois qu'on a seulement 89 likes. Donc, je vais laisser Nyx faire le sale boulot en coulisses pour que vous mettez un peu plus de likes s'il voit ce que je veux dire. Mais justement, ouais, non, il y a pire. Je te demande là d'invoquer l'image qui fait peur. On a eu peur ce soir. Fais leur peur. Voilà. Là, ils ont eu peur. Là. Vous voulez qu'on revive ça?
Non. Arrête.
Voilà, appuyez sur le like, les gars, si vous voulez pas qu'on revive ça.
C'est pas beau.
Ah, ça, ce que j'ai dit là, c'est une invocation démoniaque. Là, vraiment, j'ai fait venir la pire malédiction qu'on avait en backstage.
C'est quoi? Sérieux?
Ah, attends. Il y a une conférence de presse. Alors, apparemment, il ne veut pas mettre en place ce jeu de possession du Barça, rentrer dans le but avec le ballon. Alors oui, bon, ça on avait compris, mais...
Après moi j'attends de me faire ma propre idée de la conférence de presse de Luis Enrique, plutôt que ça manquer de respect à qui que ce soit qui en parle dans les commentaires, parce qu'il y a souvent et les traductions qui sont mauvaises, ça. Et les retranscriptions derrière qui sont encore... Tu vois, c'est le téléphone arabe, donc en fait tu passes d'une phrase qui veut dire quelque chose à une déformation totale quand ça a été dit par 3 ou 4 personnes... Pardon.
Pas de problème. J'allais justement poser une question et là je vais faire un petit tour de table, je vais faire un tour des caméras comme ça tout le monde aura son avis sur la question. Quand on voit où on en est de la saison et quand on voit les matchs de Ligue des Champions qu'on a vécu actuellement, c'est quoi pour vous les profils de jeu qui sont manquants à cet effectif que vous aimeriez pouvoir aller chercher cet hiver sur le mercato? Et on va commencer par des caméras, par Lolo, et après ce sera Soura, Gato et Kev.
En vrai, on le sait très très bien, mais il nous manque ce joueur créatif qui peut-être à l'avant-dernière passe peut soit lancer clairement des actions ou avoir la passe importante qui peut casser une ligne, qui peut amener de la créativité, dans ce qu'on n'a plus peut-être depuis un Messi ou un Neymar quand même, ou même dans Verratti. Donc moi je trouve qu'il nous manquerait quand même ce style de profil-là. Après je pense que... On l'a dans notre effectif, mais maintenant il faudrait savoir qui. Mais je pense qu'il faudrait vraiment laisser la place et faire travailler un numéro 9, très clairement. D'en installer un devant et de le laisser bosser, de le laisser exploiter ses qualités. Peut-être on y reviendra un peu plus tard, mais pour moi, je pense que la limite avec Randall, je l'aime beaucoup, je le défends beaucoup et je veux énormément de son bien et je suis son premier qui veut le protéger. Mais pour moi, le faire jouer en tant que numéro 9 au Paris Saint-Germain titulaire, ça ne sert à rien. Il faut Mbappé est plus efficace avec un joueur qui arrive à tenir le ballon, avec un joueur qui occupe des défenseurs. Le jeu est meilleur, ça pourra le rendre meilleur. Tout va être bénéfique pour l'équipe. Donc venez, on met Gonzalo Ramos ou je ne sais pas si c'est un Marco Asensio ou s'il faut mettre Kangin Lee. Il y a même eu des idées comme ça, à mettre Kangin Lee en faux numéro 9. Mais il faut en tout cas le laisser bosser parce qu'à ce moment-là, on ne va jamais s'en sortir. Comme disait tout à l'heure à TPF, là, tu regardes City, ils ont un 9. Tu regardes le Bayern, ils ont un 9. Tu regardes le Real, même si c'est un petit peu compliqué, mais ils ont au moins quelqu'un devant fixe. Tu regardes toutes les grosses équipes, il y a au moins un 9. Liverpool, c'est la même chose.
Même le Barça.
Donc, même si c'est un peu plus compliqué pour le Barça en termes d'efficacité, mais il faut mettre quelqu'un en place. Et même si c'est un jeu de position, un jeu de transition ou quoi que ce soit, il faut le laisser travailler et il va trouver la confiance et on l'a dans l'effectif. Après maintenant, est-ce que Enrique voulait d'un Gonzalo et est-ce qu'il voulait pas d'un Colomani ou d'une autre personne ou quoi? Ça, on le saura pas. Ou d'un Harry Kane, on le saura pas, on le saura peut-être un jour. Mais en tout cas, profil créatif, oui. Et au moins qu'on laisse installer un numéro 9, mais on l'a dans l'effectif et il faut laisser bosser. C'est tout.
Soura, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Qu'est-ce que bah, tu ouais, cherchais c'est... sur le mercato si tu avais, entre guillemets, les mains libres?
Si j'avais les mains libres, ce serait un milieu de terrain créatif. C'est sûr que ce serait l'idéal pour le PSG, notamment au milieu de terrain. Et ce que je pense, bah, après, ça n'arrivera pas, mais c'est peut-être aussi avoir vraiment ce milieu à trois. Avoir un milieu à trois, parce que le double pivot, on voit que ça ne fonctionne pas au Paris Saint-Germain. Il suffit que tu aies un gros milieu de terrain qui vienne te chercher très haut et tu te retrouves totalement esselé. Et là, c'était à Newcastle où tu n'avais pas Tonali, tu n'avais que Joe Linton et Bruno Guimaraes et tu as réussi à te faire mettre dans de grandes difficultés, à être en grande difficulté. Et derrière aussi, ce que je pense que je pourrais réclamer, c'est un peu le pendant Dembélé Hakimi à droite pour Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, il est un peu esselé sur ce début de saison. Alors, c'est vrai que Lucas Hernandez, il a un peu ce profil un peu plus défensif. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on l'a vu en équipe de France quand même, qui était capable de pouvoir apporter offensivement et pouvoir dédoubler. CF, le but de Benjamin Pavard avec ce magnifique centre. Donc, moi, je pense qu'il faudrait peut-être commencer à développer une certaine relation avec Kylian Mbappé, mais cette fois-ci avec un latéral gauche, plutôt que de faire de Vitinha une sorte de demi-espace, demi-ailier gauche à la Bernardo Silva, pour pouvoir permettre à Kylian Mbappé de se rapprocher un peu plus du numéro 9 et de laisser Mbappé partir de son côté gauche, repiquer dans l'axe et vraiment avoir ce latéral gauche qui vient aussi donner des bons ballons. Et comme a dit Lolo, si tu installes définitivement un attaquant, bon bah là, tu auras un peu ce latéral gauche qui va pouvoir coller la ligne et donner des bons centres sur le côté gauche. Donc là aussi, tu pourrais avoir deux lames à gauche et à droite qui pourraient être dangereuses.
Bah, j'ai laissé Gato s'exprimer. Attention les mecs, si vous voulez pas que j'invoque à nouveau le démon, je vous laisse faire. Vas-y justement Gato, qu'est-ce que tu irais chercher toi comme profil sur le mercato si tu avais entre guillemets quelques libertés pour le faire?
J'irais chercher même pas un profil, j'irais même clairement chercher un don. J'irais chercher Daichi Kamada, qui a signé à la Lazio cet été, qui était libre en partance du Bayern. De Francfort, il était à Francfort évidemment. Il avait fait des choses intéressantes l'année dernière en phase de poule de Champions League. Et j'ai bien aimé. C'est un milieu qui, style créateur ou plein, qui peut en tout cas créer des occasions. C'est à l'image de De Bruyne, à l'image de Bruno Fernandes, à l'image de Çalhanoğlu qui joue un peu plus reculé certes aujourd'hui, mais voilà, ce genre de milieu là. 9, j'en ai pas spécialement besoin. J'irai quand même chercher un arrière gauche qui pourrait faire une réelle concurrence à Lucas Hernandez, parce que malheureusement, plus le temps avance, plus Nuno Mendes, j'y crois moins en moins, malheureusement, sur sa reprise au très haut niveau. Et un défenseur central, ça ne ferait pas de mal non plus. Voilà, les trois joueurs, trois profils que j'irai chercher. Et après, tu pourras. Comment ?
Il y a Kimpembe qui va revenir aussi. Hein.
Et qui est en fin de contrat.
Kimpembe, j'y crois pas non plus, justement. J'allais dire ça aussi.
On arrête de croire à tout le monde.
Mais Kevzer, justement,
j'y crois pas, j'ai le droit de les croire.
Chacun son avis, mais justement, Kevzer, bah, ton avis, toi, tu irais chercher quel type de profil ? Si tu as des noms, n'hésite pas à les donner d'ailleurs.
De toute façon, pour moi, deux noms sans Luis Enrique est compatible par rapport à ce qu'il demande. T'as Zubimendi et Bernardo Silva. Voilà, Zubimendi qui voulait absolument faire une saison cette année avec la Sociedad en étant qualifié pour la première fois en Ligue des Champions. Et Bernardo Silva qui a une clause avec Manchester City qui a été faite l'été prochain. Donc voilà, tu veux avoir un milieu compliqué.
Zubi, je pense que tu peux, parce qu'il a une clause. Ah oui, j'ai précisé cet hiver tout de suite. Hein. Attends, cet été, c'est loin. Demain, c'est loin, mais l'été encore plus.
Il
hein.
n'y a pas de joueurs qui auront le niveau pour. Qui seront libres et qui vont être lâchés par leur club. Qui vont permettre
Zubi, il a une clause.
Ouais, mais ils vont se qualifier. Ils vont se qualifier. Il ne va pas partir cet hiver alors qu'il a demandé absolument à rester cet été, qu'il est courtisé par beaucoup de clubs. Ils vont se qualifier. Ils sont en ballotage très favorable dans leur pool. Donc, pardon, j'avais mal compris.
Pas de problème.
Du coup. Mais non, cet hiver, je pense que tu dois aller chercher un petit Aït Nouri. Qui n'est pas forcément très cher.
Blessé.
Ah ouais ?
Ouais.
Après, tu vois, tu as Mukiele qui revient, qui fait des bons matchs. Moi, je trouve que Lucas Hernandez, quand il a été offensif en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé quand même assez plus intéressant. Tu sais qu'on avait Marquinhos et Kimpembe qui sont en retour cette semaine. Moi, je trouve que c'est pareil. Tu vois, aller chercher des profils. Moi, je ne suis pas forcément fan des profils hein, comme Fofana, Khéphren Thuram ou tout ça. Pour moi, c'est des profils qu'on a déjà dans ce PSG. Si, peut-être si tu mets de la monnaie, honnêtement, j'aime beaucoup Golovin, honnêtement, qui a ce profil créatif derrière l'attaquant qui est très, très intéressant. Malheureusement, qui est souvent blessé, mais je trouve que c'est un top joueur, Golovin.
Moi, je le trouve un peu irrégulier, perso.
Il est irrégulier, mais il est dans une équipe très irrégulière aussi. Donc, oui. Je me dis que peut-être que bien entouré, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Golovin.
Comme je vais proposer une petite piste, moi, avant qu'on revienne sur le match, si ça t'intéresse.
Mais bon, voilà, tu vois, pour moi, c'est... après, encore une fois, c'est quelque chose qui est... Pour moi, je vais pas te mentir, je m'en branle complet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de finir premier de Ligue des Champions et pas finir en Europa League ou voilà. Tu vois, le mercato est pour le moment un peu loin pour ma part.
Non, bien sûr, mais je pensais à ce que disait Gato par rapport au profil d'un latéral offensif. il y a un gars genre qui est un peu en difficulté dans son club parce que bah, genre il y a 30 joueurs à son poste, il s'appelle Yann Madsen et lui il a un profil qui justement pourrait être intéressant pour le coup pour le PSG, surtout que s'il prolonge à Chelsea, il serait amené à être prêté et s'il ne prolonge pas Chelsea, il lui restera 6 mois de contrat. Donc dans les deux cas, tu as une vraie opportunité à saisir avec ce joueur qui a pour le coup peut-être un profil justement plus offensif que Lucas Hernandez et qui peut se rapprocher plus d'un profil de Nuno Mendes.
Ouais, mais tonton, les affaires avec Chelsea, franchement.
Ouais, qui doit vendre parce qu'ils ont 60 joueurs.
Dans ce cas-là, oui. T'as le latéral gauche de Nantes, là, le petit.
Quentin Merlin.
Quentin Merlin, ouais. Lui, c'est pas un mauvais joueur, il est très offensif. Et puis, tu vois,
titulaire en espoir. En
plus. Il nous avait fait mal quand on avait perdu contre Nantes 3-0,
l'année dernière,
il
semble. Ouais.
L'année dernière.
Ou 3-1.
3-1.
Ouais. C'était dur, hein.
Ouais, non, mais c'est un joueur en plus qui poserait pas de soucis si Nuno Mendes revient en forme. Donc en fait, il faut ça aussi. Il y en a certains, ils veulent absolument un titulaire en puissance. Mais il faut arrêter. Il faut un joueur qui soit en capacité d'être et remplaçant et pouvoir aussi faire souffler Nuno. Ouais. Parce que on a quand même, s'il est là, le meilleur latéral gauche du monde. N'en déplaise à certains.
Je vous propose qu'on revienne un peu plus sur le match. C'est vrai qu'on s'est permis de faire un petit peu d'hors-piste. Hein. L'hiver tombe, la neige aussi. Excusez-moi, réflexe de snowboarder, je suis allé faire un peu d'hors-piste. Mais je vous propose qu'on revienne justement sur le sujet principal. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce match. Question un peu bête. Et j'invite le chat aussi à participer à cette petite interrogation. Je vais commencer par des caméras et c'est Gâteau cette fois qui va s'y coller en premier. C'est qui vos top et flop, les gars?
Flop, malgré qu'il ait mis un but, c'est Kylian Mbappé. Match est inadmissible. Au-delà de l'attitude, même s'il a essayé de faire des replis parfois, pour compenser ses fautes techniques. Désolé, la première occasion pour moi, il doit la mettre. Après, tu peux rater des face-à-face aussi, mais c'est la mémoire qu'on a encore du match contre Milan où tu commences à avoir des occasions, tu les rates, au final, tu perds le match. Tellement peur que ça arrive. Donnarumma, je suis obligé de le mettre dedans. Franchement, c'était pas bon aussi, surtout sur le seul but qu'on a pris, quoi. On aurait pu faire mieux. Sur les tops, enfin, je vais m'arrêter sur les flops parce que sinon je vais mettre du monde quand même. Même s'il y a encore des autres choses et les autres iront le dire. Sur les tops, j'irai mettre Fabian Ruiz. Lui, essaie de jouer quand même vers l'avant et essayer de trouver des solutions. Et même si la rentrée de Barcola il a vendangé, c'était encourageant, mais je ne peux pas mettre dans les tops non plus parce que c'était quand même grave. Donc je m'arrête là pour les tops. Hein. J'ai pas de... Non, je vais mettre comme la charnière où j'avais pas confiance au début. Et au final, c'était pas si catastrophique que ça. Donc ça tient. Voilà.
Ok. Soura.
En flop comme Gâteau, je vais mettre Kylian Mbappé, parce que le match n'est ni à... c'est ni fait ni à faire ce qu'il a proposé ce soir. Et je vais mettre aussi Randal Kolo Muani, parce que il a beaucoup de chances qui lui sont données par Luis Enrique. Et malheureusement, il n'arrive pas à répondre présent sur ce match à enjeu. Et en top, je mettrai Lucas Hernandez, parce qu'il arrive quand même à un petit peu être au-dessus du lot. Donc, j'ai quand même bien aimé son match aujourd'hui. Et Fabian Ruiz, parce qu'il est sur une certaine continuité, donc j'ai bien aimé son match ce soir.
J'ai laissé Kevzor, parce que je pense que Lauriel est encore en train d'avoir des rires nerveux comme le Joker, d'où le fait qu'il ait coupé la caméra. Kevzor, c'est qui tes top et flop du coup?
Malheureusement, moi je défends beaucoup Donnarumma, mais il fait une grosse faute de main qui change la totalité de ce match, donc je mettrai quand même Donnarumma en flop. Il n'a pas grand-chose à faire sur cette rencontre. Et le peu de choses qu'il a eu à faire, il les a pas faites. Même ses relances au pied ont été un petit peu mauvaises. Même si voilà, les passes qu'on lui donne, elles sont pas bonnes. Elles sont souvent cadrées, etc. Mais bon, bref, on n'est pas dans ce débat. Mais et Donnarumma est le flop numéro 1. Et derrière, je vais pas déroger à la règle. Mais pour moi, Mbappé, au vu de sa qualité, de ce qu'il doit apporter à cet effectif, doit être bien meilleur. Même si j'ai aimé son attitude, notamment en première mi-temps, il a fait beaucoup de contre-pressing, il a quand même beaucoup plus couru que d'habitude. Là-dessus, je ne peux pas lui reprocher, mais par rapport à la qualité du joueur et en tant qu'un des meilleurs joueurs du monde, il nous doit d'être bien plus performant dans le contenu et décisif. Et malheureusement, je rejoins ce que Soura a dit, mais Randal Kolo Muani, mon ami, j'attends beaucoup de toi. Je pense que tu es capable de faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, mis à part une très bonne passe pour Dembélé, qui est vraiment excellente, eh bien, je te trouve trop incohérent dans ce que tu fais, que ce soit techniquement, tactiquement, tes déplacements. S'il a fait un bon tacle, mais pour vous dire, à un moment donné, ça résulte de beaucoup de choses. Vous savez, quand il récupère le ballon, là, et que finalement, c'est Dembélé qui lui prend le ballon dans les pieds pour aller percuter, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Donc voilà. Et concernant les tops, je vais déroger à la règle aussi. Moi qui tape beaucoup sur Skriniar, je l'ai trouvé bon ce soir. Je l'ai trouvé très bon ce soir, même il monte en puissance. Je suis content pour lui. Et je vais mettre Fabian Ruiz avec lui, qui a quand même fait pour moi un match cohérent, correct, qui a beaucoup tenté, qui a essayé de jouer de l'avant, même s'il est un peu lent dans ses transmissions. Je trouve que c'est le meilleur milieu de terrain aujourd'hui. Et je vais mettre un troisième top. Je trouve que la rentrée de Vitinha est très bonne. La rentrée de Vitinha, on l'oublie beaucoup, mais elle est vraiment très bonne, je trouve. Elle a apporté quand même beaucoup de dynamisme, beaucoup de. Il a tenté beaucoup de choses, il a mis beaucoup d'intensité dans tout ce qu'il a fait. Donc ouais, voilà, pour faire le 3 et 3.
Je demandais à Lolo à qui ça avait comment dire, déclenché une hilarité générale proche de la psychiatrie quand je lui ai posé la question. C'est qui cet homme-là?
Non, mais c'est sûr et certain qu'on allait tous mettre quasiment Mbappé dedans. Mbappé, oui. Mbappé, Kylian, Mbappé, Lautin, la noisette de Bondy, tonton que j'aime bien, c'est mon gars, mais là, je ne peux plus te défendre. Là, le match que j'ai vu de toi, j'ai eu l'impression de voir le match de Manchester United que j'avais moi-même assisté au Parc des Princes et qui m'avait fortement énervé de sa performance. Donc je dirais donc oui Kylian Mbappé en 1, je mettrais en 2, je mettrais le match de Randall. Franchement, pareil, je te défends beaucoup, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup 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 de chance. Là on n'est pas à Francfort, on n'est pas en équipe de
À Nantes.
France, on n'est pas à Nantes,
Il y avait
on
lieu de
est
belle.
voilà ou à Boulogne, mais on est dans le club, l'un des clubs les plus regardés au monde, un des clubs les plus détestés en France et en Europe. Donc un des clubs avec le plus d'attentes à chaque fois. Et donc si toi tu n'es pas bon et tu n'arrives pas en tout cas à être clutch, vous en parlez la dernière fois sur les derniers débriefs, qu'il serait peut-être un peu plus clutch et un peu plus important en sortie de banc. Bah, je commence un peu vraiment de plus en plus à le croire.
C'était le sujet de
Donc
ce midi en plus.
voilà, donc en vrai de vrai, non, j'aurais dit donc RKM en 2. Après en 3, j'hésite entre mettre Donnarumma, mais je lui en veux pas forcément parce qu'il avait rien à faire du match, mais sur l'occasion, on l'attend, bah, il nous a fait une bouffonne et ça m'énerve. Mais j'aurais pu mettre aussi le match de Kanguindi que j'ai trouvé aussi pas trop à son aise. Après, est-ce que c'est son positionnement qui était assez compliqué ou quoi? Mais je dirais voilà, plus l'équipe en général qui m'a plutôt déçu offensivement. Et après offensivement, enfin dans les tops, je mettrais Lucas Hernandez, que j'ai beaucoup aimé son match de soldat, où quand il a été un petit peu plus offensif en deuxième mi-temps, bah il a été dangereux. J'ai du mal à mettre Barcola parce que Barcola, pour moi, les occasions qu'il vendange, il en a quand même trois et ça fait mal, comme disait Soura. Donc en vrai, il aurait pu débloquer le match à lui tout seul et il aurait pu, lui-même qui attendait ce but, ça aurait pu faire du bien. Donc ouais, je vais mettre Fabian Ruiz que j'ai trouvé un bon match. Après, et Skriniar aussi que j'ai bien aimé, comme tu disais, Kev, j'ai bien aimé le match de Skriniar. Il était intéressant. Il nous sauve à un moment la mise sur une occasion avec Isak là, où j'ai l'impression limite où je me dis il y a main ou pas et tout, s'il la récupère en taclant du talon d'Achille, enfin du tendon
C'est
d'Achille
pas
vraiment.
esthétique, en
Et
tout cas, c'est pas esthétique du tout.
c'est pas esthétique du tout. Sur le coup, je me suis dit, oh là
Mais
là,
c'est
là,
efficace, c'est efficace.
ça pue. Et après, j'ai dit, bon,
Juste le
ok.
doubleur.
Voilà. Mais non, j'ai bien aimé en fait Skriniar dans son match. Au-delà de son match que j'ai bien aimé, c'est l'attitude qu'il a eue sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a agressé énormément le porteur du ballon à monter très très haut. Et même dans la première mi-temps et même en deuxième mi-temps, quand il avait le ballon, il donnait l'impulsion avec sa première passe en mode. Allez, c'est parti, on y va, on joue. Là où par exemple un Danilo jouait trop lentement avec 2, 3, 4, 5 touches de balle, ce qui me rendait fou. Et Kev, qui est entraîneur, et moi qui coach un petit peu, quand tu veux donner de l'intensité avec ton premier joueur, ça fait toute la différence, tu vois. Et c'est la première transmission qui parfois donne tout, l'intensité de la passe, ce genre de choses. Et moi, j'ai pas trouvé ça chez les autres alors que Skriniar le faisait.
Donc c'est ce que j'ai aimé. Donc voilà mes tops et mes flops.
T'as oublié la superbe passe dans le dos de Danilo pour Mbappé que Marquinhos n'a pas fait depuis 4 ans. Mais vas-y Kevzor, tu as levé le doigt et comme j'aime bien qu'on lève le doigt, je te laisse la parole.
Je vais juste faire une parenthèse parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de critiques sur Luis Enrique dans le chat. Mais on ne va pas se mentir, hein. Si les joueurs font le taf en termes d'efficacité dans les deux surfaces, c'est un 3 ou 4-0 et tout le monde mange dans le caleçon de Luis Enrique, si je peux être poli. Donc à un moment donné, je veux bien qu'on tape tout le temps sur Luis Enrique ou quoi que ce soit. Mais je sais comment ça fonctionne. Quand l'équipe gagne, le coach, on s'en fout, c'est les joueurs qui sont bons. Quand l'équipe perd, c'est tout le temps la faute du coach. Aujourd'hui, moi, je trouve que Luis Enrique, il a vraiment fait les choix qui étaient. Il a fait des choix qui ont été forts en deuxième mi-temps. Il a tenté des choses. Et finalement, ça a quand même été positif pour l'équipe parce que t'as quand même frappé 31 fois au but. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais l'efficacité dans les deux surfaces, ce n'est pas Luis Enrique qui a posé problème. Hein. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi on tape gratuitement. Je sais qu'il a des fans, je sais qu'il a des mecs qui n'aiment pas un petit peu son projet de jeu ou lui-même, mais il faut aussi être pragmatique, prendre un peu de recul. Et voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Et après, quand tu auras fait tes top et flop, je voudrais dire autre chose, tonton.
Non, vas-y, tu peux y aller.
Non, parce que c'est hors sujet total, mais ça fait partie du match.
Ok. Au niveau des top et flop, alors attends. Je me fais harceler là par le chat privé. T'inquiète, je lis le chat privé, mais il faut bien que je finisse le sujet que j'ai lancé. Mais concernant mes top et flop, au niveau de mes flops. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, il y en a pas de que je vais considérer pire que l'autre en le disant. Je vais pas être très 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 original en fait, dans le sens où je vais mettre Gianluigi Donnarumma, dans le sens où tu n'as que deux tirs cadrés de Newcastle, tu n'en as pas 15, tu n'en as pas 17. Il a été capable de nous sauver dans certains matchs où on prend l'eau en faisant un très très grand nombre d'arrêts. Il a que deux arrêts à faire sur ce match et il ne le fait pas. Et pour le coup, j'ai plutôt eu l'impression que Gianluigi Donnarumma il jouait du côté de Newcastle et qu'on a récupéré Nick Pope. Peut-être, je me suis trompé, mais voilà, j'ai un minimum d'exigence envers ce joueur, comme je l'aime bien. Donc je suis obligé de mettre Donnarumma en flop. Et ensuite, j'ai envie de faire un jeu de mots. Je vais mettre Kylian Muani ou Randall Mbappé, appelez-le comme vous voulez, les deux de devant, ça ne va pas. Bon, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que je te dis que les deux joueurs ont tout fait mal dans ce match. Hein. Il y a quand même des choses intéressantes, un minimum. Hein. Tout n'a pas été raté du début à la fin en les concernant. Mais c'est une histoire, comment dire, d'exigence. Quand tu as un joueur comme Kylian Mbappé, comme j'aime le dire, et que tu es censé être le leader de ce projet, c'est normal que tu as plus d'exigences que les autres. Je ne vais pas avoir la même exigence avec Kylian Mbappé qu'avec Carlos Soler, et encore heureux. Oui, je suis un peu obligé d'être dur avec lui, mais je le fais. Ça ne veut pas dire que je trouve que Mbappé est nul, ni que je veux sa peau. Au contraire, ceux qui me connaissent savent que je l'aime bien. Mais là, c'est quand même... sur ce match, sans faire une généralité, je le mets en flop. Dans ce sens même où s'il nous met le but, et merci à toi quand même de faire ton métier, heureusement que tu mets celui-là, je suis obligé de le mettre en flop parce que oui, il met son pénalty, mais derrière, c'est très très peu de touches de balle alors que tu es censé être le joueur majeur de cette équipe. C'est pas assez d'occasion par rapport au standing de joueur que tu es censé être. Tu es censé être un tueur, je veux le voir tirer plus, et c'était pas assez. Donc voilà, c'est dans mes flops, mais on n'est pas dans le définitif. Dans les tops, oui, on est obligé, pareil, de ne pas être très très original, mais Fabian Ruiz, forcément, j'avais un peu de doute sur sa capacité à s'adapter au Paris Saint-Germain avec justement l'absence de Warren Zaïre-Emery et Ugarte, mais finalement, il se trouve qu'il a bien fait son taf. Et même si il manque de certaines qualités pour jouer 6 sous Luis Enrique, notamment des qualités défensives, je trouve que quand Ugarte est sorti, il a super bien assuré la transition. Comment dire ? Je pourrais mettre la première mi-temps de Kang en flop et la deuxième en top, dans le sens où j'ai beaucoup aimé Kangini à droite dans le milieu en deuxième mi-temps, à l'inverse de sa première mi-temps que j'ai trouvé très 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 décevante quand il était à gauche. Et j'ai eu l'impression un peu justement que la rentrée de Vitinha, ça a permis justement que la paire Vitinha-Lee soit assez pertinente au milieu de terrain. Et en deuxième top, enfin en dernier top plutôt si je pourrais dire comme ça, j'ai des doutes, hein. Je dirais quand même Skriniar, dans le sens où même si on sait que Skriniar manque de beaucoup de qualités techniques pour être un défenseur indiscutable sous Luis Enrique, les qualités premières de Skriniar, ça reste le duel. Et ce soir, le duel, il en a eu. Il a eu un sacré client avec Alexander Isak, qui, pour le coup, était un joueur qui pose beaucoup de problèmes. Et je m'attendais à ce qu'il pose encore plus de problèmes à ce PSG. Donc, pour le coup, Skriniar, on lui demande de faire de la défense. il défonce même, quitte à faire des gestes un peu limites. Et je pense qu'il a un peu ce vice et cette méchanceté qui manque parfois à ce Paris Saint-Germain en défense, qui nous manquait en tout cas avec la paire Marquinhos-Danilo. Donc voilà, je ne dis pas que c'est définitif. Peut-être que Skriniar ne s'imposera pas forcément à terme dans cette équipe. Mais dans ce soir, bah, je le mets dans les tops en tout cas. Oui, Kevzer, t'as encore levé le doigt, je suis obligé de te donner la parole.
Du coup, moi je voulais faire une parenthèse aussi concernant ce match, parce que c'est un joueur qui est absent et que beaucoup crachent dessus en l'appelant caca culotte. Mais aujourd'hui, Marquinhos, en fait, on voit très bien que dans la construction du jeu de Luis Enrique, il fait partie de toutes les phases de jeu qui, côté droit, permettent à Hakimi et Dembélé aussi d'être plus performants. On ne va pas se mentir. J'attendais aussi de voir un petit peu comment allait se comporter l'équipe sans Marquinhos. Ben, il s'est passé la même chose que quand il est là. Donc j'aimerais que certaines personnes qui ont vraiment mis une cible de fléchette sur lui fassent aussi un petit peu le mea culpa. Parce que concrètement, si aussi l'équipe a eu du mal à déséquilibrer le bloc défensif de Newcastle, c'est parce que malheureusement, quand tu as tes deux défenseurs centraux qui n'ont pas une qualité technique au-dessus de la moyenne et qui mettent quasi 5 secondes à faire en sorte que ton latéral gauche et ton défenseur latéral droit touchent le ballon, c'est très très compliqué de... Donc, aujourd'hui, moi je vois une chose en tant que coach, c'est que ta première rampe de lancement dans ton projet de jeu, c'est Marquinhos. Il est énormément servi, il sert énormément, il casse beaucoup de lignes, il fait beaucoup de passes vers l'avant, et ça malheureusement c'est un constat. C'est un constat qui est véridique. Moi quand j'entends aussi que quand il y a Marquinhos, on ne fait jamais de faute, on ne fait jamais de faute tactique, on fait le latéral gauche de Newcastle qui perce 7 joueurs, eh bien on n'a pas fait de faute non plus. Eh, Hakimi l'a regardé avancer, Skriniar l'a regardé avancer, Danilo est resté planté comme un piqué. Au milieu de terrain, Fabien Ruiz et Ugarte l'ont regardé avancer. Et Hernandez, quand la passe a été latérale, est resté collé à son entrée de surface. Donc je trouve que.
Non, mais Kevzor, la faute, tu fais de la faute tactique, tu es aux abords de la surface de réparation. Et moi, je suis désolé. Moi, je suis parti des mecs qui veulent voir partir Marquinhos, peu importe la situation.
Ce soir, tu as été en difficulté, pourtant.
Je le dis, je le maintiens, Marquinhos, peu importe la saison qu'il nous fait, peut même nous ramener la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, je vais voir son départ. Si on parle d'un
renouveau... C'est de la malhonnêteté.
Non, c'est pas de la malhonnêteté, c'est juste un
constat. Mbappé a fait certaines remontadas.
Mon propos, parce que Marquinhos, il est là depuis très longtemps. Il est là depuis 10 ans. Il était déjà là à Chelsea 2014. J'étais encore au lycée. Mais quasiment 8 ans que je suis en CDI, il est encore là. Je suis désolé, moi. Moi, il me faut du renouveau. À chaque fois, on a l'image de Marquinhos. Et même pour lui, je pense que ça va lui faire du bien de partir. Donc moi, je suis désolé, Marquinhos, peu importe la saison qu'il fait, on ne critique pas le joueur. Comme tu l'as dit, c'est un bon joueur. On peut se baser sur lui pour les phases techniques. Mais mentalement, on a toujours des faiblesses. Et en plus, il a déjà atteint le statut de capitaine. On ne va pas le régresser dans le club. Le meilleur moyen pour s'en sortir de ça, pour moi, je dis bien pour moi, après toi,
Gâteau, là.
Tu vois ?
Non, mais Gâteau, t'es en train de me faire du cinéma parce que c'est pas du tout ce que je dis. Gâteau, je te dis la vérité. Ce soir, tout le monde attendait de voir si le PSG allait être extrêmement conquérant, allait pas faire caca culotte, comme tout le monde le dit, allait avoir une bonne paire de coronets, etc., etc. Force est de constater que non. Donc, le problème au PSG n'est pas Marquinhos, alors que tout le monde lui tape dessus quand on fait des mauvais matchs ou qu'il y a des erreurs. Voilà. C'était
mais quand il y a... Non, mais on est est-ce qu'on est d'accord pour dire que... Merci, Swapper, pour les 2 euros.
Merci, Swapper,
frérot. Super sympathique. Non, mais il peut se passer de mauvais matchs sans Marquinhos. Aujourd'hui, c'est le cas. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur parce qu'il n'est pas là, il y a un mauvais match. Par contre, Marquinhos, quand il est là dans les mauvais... Il a dans les mauvais matchs et qu'il a des mauvais faits, on le souligne aussi. Et malheureusement, ça se répète trop souvent. C'est pour ça qu'on veut son départ. C'est pas juste on l'aime pas ou quoi ou quoi. Donc, bon, moi, j'ai donné mon avis, t'as donné le tien.
Ouais, bien sûr. D'accord. Mais sur un plan tactique, dans ton
projet. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, factuellement, Marquinhos n'était pas là. Le match du Paris Saint-Germain n'était pas bon. L'autre fois, factuellement,
à domicile, alors qu'on avait rarement fait des débâcles à domicile.
C'est vrai. Mais on n'a pas perdu, mine de rien.
Non, mais depuis 2012, on n'a perdu qu'un seul match en phase de poule face à Manchester United.
Ouais, mais mine de rien, bon, ça fait tâche parce qu'on a galéré et puis que la qualification n'est pas acquise. Elle aurait pu être acquise ce soir. Maintenant, on n'a toujours pas perdu. Là où il y a les cibles de Marquinhos, déjà son attitude corporelle, il y a trop d'épisodes où tu dis il a peur, on ne peut pas lui faire confiance. Et même dans certains points où il se cache un peu, et puis même ses déclarations de l'année dernière, moi c'est pas possible. Donc pour moi, c'est exigé. Peu importe la saison qu'il fait, quand tu es capitaine comme ça, on ne peut pas te régresser, tu passes vice-capitaine ou te dégrade dans le vestiaire. C'est trop. Le gars, on va avoir une coquille vide. Donc voilà, Soura, je pense que Swapper, il t'envoie un message pour peut-être lui répondre. Bon courage.
Soura, elle est à l'école demain.
Non, je suis pas court en plus demain.
Ah bah profite bien, profite de ouf. Heureusement, tu fais ton cours demain avec un truc comme ça. Alors le problème, c'est l'animation au milieu, selon Cool and the Bond 007. Il n'y a pas un problème au PSG, il y en a plusieurs. Mais oui, au moins oui, ça c'est un problème pour le coup qui est complètement visible et on ne va pas te contredire. Ouais. Bon, sur ce les gars, je vois que quand même, on a fait une bonne heure. Il faut rappeler quand même que Gato et Lauriel, ils ont fait quand même le live match avant, ils doivent être un peu fatigués. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir été présent
dans ce live.
Ouais, non, mais c'est ce que je te dis, toi, tu dois avoir le cerveau qui a fondu. On a été 430 en live, en tout cas, c'est avec grand plaisir que vous avez été tous là. L'objectif, c'est les 200 likes, les gars. Soyez pas radins, il en manque que 26. On n'est plus très très loin. Si vous êtes capable de nous regarder pendant une heure, je pense que vous êtes capable de prendre deux petites secondes pour cliquer sur un pouce, c'est pas grand-chose. Et surtout, ce serait dommage que Nyx vous traumatise une dernière fois avec une image sortie tout droit des enfers afin de vous forcer à appuyer sur les likes. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous très très prochaine fois. Non, pas ça, Nyx, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner pour aider au développement de la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur toutes les autres plateformes. On n'est pas que sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Amazon, on est sur Twitch, on est un peu partout. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On se donne rendez-vous très prochainement pour un prochain live. Et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Soirée.